Il est 18h, merci d'écouter Europe 1.
L'Europe va-t-elle manquer de vaccins anti-Covid ? Pfizer annonce des retards dans la livraison de ses doses dans toute l'Europe à partir de la semaine prochaine. Retard estimé entre 3 et 4 semaines.
Alors que le virus, lui, continue de circuler, la deuxième semaine de janvier enregistre une hausse très importante des contaminations, plus 30%.
Carrefour ne passera pas sous pavillon canadien. Bercy freine des quatre fers pour empêcher la prise de contrôle du géant français de la grande distribution.
La disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn est un mystère supplémentaire. L'activation du compte Facebook de l'infirmière qui intrigue les gendarmes.
L'exploit d'une équipe de chirurgiens lyonnais, ils viennent de greffer deux épaules et deux bras sur un homme amputé après un accident.
Et puis appelez-le Monsieur Dakar. Stéphane Peterhansel remporte l'épreuve pour la 14e fois de sa carrière, c'est un record.
La Bourse de Paris a terminé en baisse ce soir, moins 1,2% à 5611 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et la neige est de retour Anissa.
Eh oui, le répit était de courte durée puisque demain nous aurons un nouvel épisode neigeux qui va toucher le nord du pays. 13 départements en vigilance orange, neige et verglas dès demain matin 6h. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On peut dire que l'annonce de Pfizer jette un trouble ce soir. Le laboratoire affirme que la livraison de ces vaccins devrait ralentir dans les prochaines semaines.
Et forcément, inquiétude des États membres qui s'interrogent. Est-ce qu'il y aura assez de vaccins pour tout le monde ? Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On vous retrouve, on va essayer de comprendre avec vous Isabelle, pourquoi ce retard ?
Eh bien, Pfizer explique dans un communiqué qu'il doit fournir plus de doses que prévu au départ. Souvenez-vous, les 27, par exemple, ont conclu récemment un contrat pour 300 millions de doses en plus. Le labo transforme donc son usine belge de Puurs. C'est aujourd'hui la seule qui fournit ce vaccin à toute l'Europe. Il va devoir obtenir de nouvelles autorisations pour cela. Cela aura un impact donc sur les livraisons de fin janvier à début février, précise l'entreprise, sans dire dans quelle mesure. Mais en contrepartie, promet-elle, cela permettra d'augmenter considérablement les livraisons à partir de fin février. La présidente de la Commission européenne s'est voulue rassurante cet après-midi. Ursula von der Leyen a parlé au patron de Pfizer.
Le PDG de Pfizer m'a assuré que toutes les doses prévues seraient bien livrées au premier trimestre. Il s'occupe personnellement d'essayer de réduire le délai et de faire qu'il rattrape le retard le plus vite possible. C'était très important de lui transmettre le message que nous avons urgemment besoin des doses garanties au premier trimestre.
Les contrats conclus avec les laboratoires prévoient en effet des objectifs de livraison par trimestre, mais pas d'engagement sur leur rythme. Alors cette annonce inattendue de Pfizer prend de court les pays européens, elle va compliquer les stratégies de vaccination au moment où elles prennent de l'ampleur. Dans une lettre commune, les ministres de la Santé de 6 pays du nord de l'Europe se plaignent ce soir d'une situation inacceptable qui va retarder la vaccination pour les populations à risque.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. La semaine dernière, on vous expliquait que les contaminations à l'occasion de Noël avaient bondi. Eh bien, on a maintenant les chiffres pour le nouvel an, Christophe.
Oui, Jean Castex, le Premier ministre, avait salué le côté raisonnable des Français pour ces fêtes de fin d'année. Mathieu Charrier, est-ce que ça se vérifie dans les chiffres ?
Alors oui et non, je vous donne le chiffre. Plus 30% d'augmentation de cas positifs la deuxième semaine de janvier, ça veut dire des contaminations autour du jour de l'an et du réveillon. Donc c'est plus que pour Noël, on est à 17% d'augmentation, mais ça reste contenu, et surtout avec 18 000 cas confirmés en moyenne chaque jour, et une augmentation particulièrement marquée chez les moins de 20 ans. Avec ces 18 000 cas, on est 4 fois en dessous de ce qui se passait au moment du pic de l'épidémie. Alors il y a quand même d'autres mauvaises nouvelles, le taux de positivité des tests continue d'augmenter, il est désormais de 6,5%, c'est 1,1 point de plus que la semaine passée. Et puis on note 9 000 nouvelles hospitalisations enregistrées entre le 4 et le 10 janvier. Là aussi, c'est un indicateur en hausse. Concernant maintenant, vous savez, la circulation du variant anglais, les premières estimations semblent se confirmer au fil de l'étude. Il serait responsable de 1 à 2% des cas de Covid-19 en France. La seule petite bonne nouvelle, si je puis dire, dans tout ça, c'est que les Français se font de nouveau tester. Le nombre de tests réalisés chaque semaine est en hausse. Il atteint presque maintenant les 2 millions.
Explication Mathieu Charrier.
C'est l'autre gros dossier de la semaine pour le gouvernement, la tentative de rapprochement entre Carrefour et un groupe canadien.
Couche-Tard, c'est le nom de cette chaîne de magasins qui veut mettre la main sur l'un des géants français de la grande distribution. Les discussions avaient bien avancé jusque-là, mais c'était sans compter sur l'opposition de Bercy. Et Emmanuel Dutheil, vous pouvez nous révéler ce soir que Bruno Le Maire l'a dit très clairement au cours d'un entretien en tête-à-tête avec le patron de Couche-Tard.
Oui, Alain Bouchard, c'est le patron de Couche-Tard. Il était cet après-midi dans le bureau de Bruno Le Maire et selon l'entourage du ministre, ce dernier a été très clair. Il lui a dit que ce ne serait pas possible en l'état. L'état, sans être actionnaire de Carrefour, a des moyens pour bloquer cette opération. La distribution alimentaire des Français a été ajoutée l'an dernier à la liste des secteurs pour lesquels la France peut dire non à des investissements étrangers. Du côté de Bercy, on critique aussi assez fortement la façon de faire. La direction de Carrefour a oublié de prévenir le ministre et pourtant les occasions n'auraient pas manqué. Ils sont copains de promo, ils ont déjeuné ensemble quelques jours avant, mais bizarrement Alexandre Bompard, patron de Carrefour, n'a rien dit, révèle l'entourage du ministre. Du côté des deux protagonistes, on commence quand même à se rendre compte que ce ne sera pas simple de contourner cette oucase. Il y a eu des discussions, des rencontres ces derniers jours entre Alain Bouchard et Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. On ne veut pas jeter le bébé avant l'eau du bain. Avant d'avoir discuté, dit-on côté canadien, il y a eu, semble-t-il, aussi des discussions directes entre le Premier ministre canadien et le président de la République. Mais un rachat pur et simple, en tout cas comme c'était imaginé, semble bien relativement compromis ce soir.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Dans le Calvados, on redoutait le pire et c'est malheureusement confirmé. Les corps sans vie des trois marins pêcheurs viennent d'être retrouvés.
Ils avaient disparu la nuit dernière après le naufrage de leur bateau de pêche. Le navire avait donné l'alerte pour une avarie de gouvernail et c'est au cours de son remorquage qu'il a été emporté par une lame avant de sombrer dans une eau estimée à moins 10 degrés.
Dans le Tarn, le mystère reste entier autour de la disparition de Delphine Jubilard. Cette infirmière n'a plus donné de nouvelles depuis un mois.
Les recherches n'ont rien donné jusqu'à présent. Les gendarmes et le juge d'instruction poursuivent évidemment leurs investigations, notamment autour du compte Facebook de la jeune femme.
Ses proches ont signalé qu'il s'était brièvement activé sans que l'on sache très bien s'il s'agissait d'un bug informatique ou d'un piratage. Maître Philippe Pressec, l'avocat des proches de Delphine Jubilard.
Mes clients sont membres d'un groupe Facebook et sur ce groupe est apparu un message émanant du compte Facebook de Delphine Jubilard, qui a ému beaucoup de gens. Évidemment, mes clients ont immédiatement pensé que c'était une façon pour elle de montrer qu'elle était là, qu'elle était vivante. Il y a eu des likes, il y a eu des messages, mais qui n'ont été sans réponse. Et puis ensuite, tout a été supprimé. Mais en réalité, c'est un message qui est entièrement blanc. Il semble qu'il soit impossible de publier un message vide sur Facebook. Donc c'est l'hypothèse du bug qui doit prévaloir. Cela dit, dans une affaire où nous sommes confrontés à un mystère totalement affolant sur la disparition d'une personne, que vienne aujourd'hui se greffer un deuxième mystère sur un message qui apparaît et que Facebook se mette à bugger juste sur le compte de Delphine Jubilard est absolument incroyable.
Maître Philippe Pressec, l'avocat des proches de Delphine Jubilard, propos recueillis par Benjamin Péter.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h09, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec cet exploit de la chirurgie, une greffe d'épaule et de bras sur un homme qui avait été amputé après un accident.
Oui, c'est une équipe de chirurgiens lyonnais qui a réalisé cette première mondiale sur un patient de 48 ans, une véritable prouesse, Romanoquet.
Oui, car jamais une greffe n'avait inclus en même temps deux bras et deux épaules. Une opération d'une complexité inédite, saluée par Éric Lenoble, chirurgien et membre de l'Institut Main-Épaule à Paris.
C'est quand même des gros segments qui ont été greffés. Les épaules étant quand même des zones anatomiques un petit peu compliquées. On a des muscles, on a de la peau, on a des vaisseaux. Le contact entre le greffon et le receveur et le patient est une surface anatomique beaucoup plus importante. Cette opération inédite est plutôt l'aboutissement des connaissances qu'on a acquises jusqu'à présent. C'est un exploit logistique, c'est un exploit d'organisation.
Car rendez-vous compte, la greffe a tout de même demandé 15 heures de travail au bloc opératoire. Le patient, c'est un Islandais de 48 ans, un électricien amputé des deux bras après s'être électrocuté sur une ligne à haute tension. Deux jours après l'intervention, l'homme est dans un état stable. L'opération a quand même mobilisé les équipes de 5 hôpitaux lyonnais différents, plusieurs dizaines de soignants. Il faut dire que la ville compte parmi les meilleurs spécialistes en matière de greffe et ils n'en sont pas à leur premier exploit. En 1998, c'est déjà à Lyon que l'équipe du professeur Dubernard a réalisé la première greffe de main au monde.
Effectivement, on s'en souvient. Merci beaucoup, Roman. Ok. Le foot, Montpellier-Monaco, c'est ce soir à 21h en ouverture de la 20e journée de Ligue 1 et c'est un match que l'on pourra encore voir à la télé pour ceux qui sont abonnés en tout cas à Téléfoot. Hein.
Allez, on va passer au désert. Le Dakar, on va l'appeler Monsieur Dakar. Stéphane Peter-Hansel s'impose pour la 14e fois.
Oui, on pourrait l'appeler aussi le roi du désert, le Français qui l'a emporté dans la catégorie auto, mais il s'était déjà imposé à moto il y a 30 ans. Stéphane Peter-Hansel qui visiblement n'est pas rassasié, Julien Froment.
Effectivement, une joie intacte pour Stéphane Peter Hansel, car même s'il l'a remporté pour la 14e fois, le Dakar, le rallye raid créé par Thierry Sabine, reste l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Le pilote savoure donc ce nouveau succès qui le fait rentrer un peu plus dans la légende du sport automobile.
C'est toujours autant de pression, et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, chaque course est quand même très compliqué à gagner. Il faut vraiment se donner à fond, il faut être complet, il faut avoir un bon team, il faut avoir une bonne voiture, bien sûr un top copilote. Gagner 14e fois, c'était important. Ça me permet 30 ans entre la première victoire et cette dernière victoire. C'était en 91 la première victoire en moto, là on est en 2021, ça fait 30 ans. Et puis aussi je pense être le seul à avoir gagné sur les trois continents. Donc ça, on est quand même des privilégiés aussi.
Épreuve de sa longévité quand Stéphane Peter Hansel a gagné son tout premier Dakar, donc en 1991, l'Argentin Kevin Benavides, vainqueur de l'épreuve cette année sur moto, avait seulement 2 ans, même pas encore l'âge de faire du vélo. Peter Hansel, monsieur Dakar, est insatiable, inusable. Il vise désormais un 15e titre l'an prochain, toujours dans le désert d'Arabie Saoudite.
Gagner à moto et en auto, c'est rare ici, mais ça signe quand même la performance de cet homme extraordinaire, 55 ans. Hein.
La patte d'un champion. Ouais. Merci Christophe Lamarre, on vous retrouvera bien sûr pour un nouveau journal à 19h. Et le Dakar, on y reviendra dans le débat du Club des Idées à 19h20. Comment lui redonner son lustre d'antan ? La météo, on vous retrouve Anissa Haddadi avec, vous nous le disiez, donc ce nouvel épisode neigeux pour demain.
Oui, c'est à cause d'une nouvelle perturbation, Isabelle, qui va arriver demain par le nord-ouest et qui va toucher le nord du pays et pratiquement toutes les régions qui se situent au nord de la Seine et même jusqu'à l'Auvergne. Nous avons 13 départements placés en vigilance orange, neige, verglas. C'est encore un épisode de neige remarquable puisque demain nous attendons 3 à 10 cm de neige. En ville, en plaine, il va neiger aussi sur les montagnes, mais c'est surtout dans les villes que ça va nous intéresser. Et attention, le danger sera double demain, puisque les températures seront particulièrement basses, autour de moins 8, moins 5 degrés. Du coup, le risque de verglas sera très important. À l'est, la neige arrivera dans la nuit de samedi à dimanche. Sur la côte atlantique, c'est une journée où le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, avec quelques averses. Et puis au bord de la Méditerranée, le ciel va hésiter, là aussi entre nuages et éclaircies. Mais attention, Mistral et Tramontane soufflent toujours très fort. Donc demain matin, je vous le disais, nouvelle chute des températures avec moins 8 à Metz, moins 7 pour Nancy, moins 6 à Belfort, moins 4 à Auxerre, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 1 à Paris, 2 à Marseille et 6 à Brest. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons des températures quasi égales à celles d'aujourd'hui, 1 à 13 degrés, 1 pour Strasbourg, 7 à Paris et 12 à Brest.
Il va neiger demain dans la capitale, Anissa ?
Il va neiger à Paris et sur la petite couronne.
Bon, à 18h30, vous nous donnerez en tout cas la liste exacte des 13 départements qui sont placés en vigilance. À tout à l'heure, Anissa.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h17, merci à vous d'écouter Europe 1. Je reçois ce soir un jeune homme assez exceptionnel. Il n'a que 24 ans, pourtant son travail fait référence en matière de statistiques sur le Covid. Les plus grands spécialistes lui font confiance. Bonsoir Guillaume Rosier.
Bonsoir.
Vous êtes donc le créateur du site Covid Tracker. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord en quelques mots, c'est un instrument informatique qui traite toutes les données que l'on peut avoir sur le virus, c'est ça, en France et ailleurs sur la planète hein.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un site internet qui permet de visualiser différents chiffres, d'avoir accès à certaines statistiques dans le but de suivre l'épidémie, de voir comment se développe l'épidémie, dans quelle région, dans quelle tranche d'âge et à quelle vitesse. Est-ce que les chiffres sont bons ou pas? Est-ce que la situation empire ou est-ce qu'elle s'améliore?
Alors, pour qu'on comprenne bien, comment faites-vous pour collecter d'abord ces données? Où allez-vous les chercher?
Alors, une grande partie des données sont officielles, quasiment toutes les données sont officielles et publiques. Donc, en fait, concrètement, j'ai développé des algorithmes qui vont aller télécharger automatiquement et quotidiennement les nouvelles données. Par exemple, pour la France, les données proviennent de Santé publique France ou alors de l'INSEE ou de l'Adresse, enfin, c'est-à-dire que des organismes publics. Et donc, mes algorithmes vont télécharger ces données. Ensuite, ils vont les traiter, réaliser des visualisations de données comme des graphiques pour pouvoir vraiment mettre en lumière ce qui est important dans ces données-là.
Ça veut dire que ce sont des statistiques qui sont en permanence à jour, hein ?
Tout à fait, c'est en permanence à jour. Les algorithmes vont télécharger les nouvelles données tous les soirs. Par exemple, Santé publique France publie des données tous les soirs sur le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, ce genre de choses. Et donc le site va être réactualisé quotidiennement. Donc à chaque fois qu'un utilisateur y va, il peut accéder aux dernières données à jour.
Bon, donc si on résume, vous connaissez parfaitement le nombre de personnes testées, contaminées, hospitalisées, en réanimation, décédées. Qu'est-ce que vous en faites de ces chiffres? Quel est le lien qui existe entre d'ailleurs ces chiffres et ceux que l'on trouve sur l'appli officielle Tous Anti-Covid?
Ces chiffres, ce sont les mêmes, hein, c'est les mêmes données initialement. Cependant, sur Covid Tracker, elles sont mises en forme d'une manière différente, elles sont mises dans leur contexte, elles sont contextualisées pour vraiment comprendre leur sens, ce qu'elles signifient, notamment comprendre si ces données sont élevées ou pas, dans quel sens elles évoluent, dans le but vraiment de bien comprendre, d'avoir une vue plus claire de la situation de l'épidémie en France, mais aussi dans le monde, hein, puisque je propose aussi des graphiques pour d'autres pays, et puis en France, à toutes les échelles, notamment à l'échelle du département ou de la région.
Alors Guillaume Rosier, à partir de demain soir, l'ensemble de la France passera sous couvre-feu dès 18h. Vous n'êtes pas convaincu, me semble-t-il, par l'efficacité de ce couvre-feu renforcé, contrairement à ce que dit le gouvernement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
C'est encore beaucoup. En fait, le premier argument, c'est que c'est encore beaucoup trop tôt pour conclure sur l'efficacité de ce couvre-feu. Les données dont le gouvernement et puis nous disposions hier dataient en fait du 7 janvier. En fait, il y a plusieurs décalages. Il y a 6 jours de décalage avec les dernières données, en raison notamment du temps de traitement des tests et puis la publication des tests et puis des traitements statistiques qu'on doit appliquer pour nettoyer les données, pour les lisser, pour pouvoir les analyser correctement. Et donc les dernières données dont on disposait dataient du 7 janvier. Les couvre-feux renforcés avaient été mis en place le 2 janvier. C'est seulement 5 jours plus tôt. 5 jours, c'est trop court, c'est trop tôt. On sait que le temps d'incubation est de 5 jours, donc il faut beaucoup plus de temps que ça pour pouvoir analyser vraiment la répercussion d'une mesure telle que celle-ci. On s'attend plutôt à des effets une dizaine de jours après. Et puis ensuite, il est vrai de dire que le nombre de cas a augmenté moins rapidement dans les départements qui ont été mis en couvre-feu renforcé. Mais en fait, quand on analyse de façon un peu plus précise, on se rend compte que c'était déjà le cas avant la mise en place du couvre-feu renforcé. C'est-à-dire que si on regarde la semaine qui précédait le 2 janvier, entre le 25 décembre et le 2 janvier, le nombre de cas avait déjà augmenté un peu moins rapidement dans ces départements-là. Donc le fait de dire que le nombre de cas augmente un peu moins vite en proportion, en taux, dans les départements qui ont été mis en couvre-feu renforcé, ne veut pas automatiquement dire que c'est une conséquence directe du couvre-feu. Donc ça veut pas, enfin en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée qui me permet de dire que le couvre-feu renforcé est efficace.
Donc il n'y a pas de lien, de causalité entre couvre-feu, baisse de la mobilité et diminution de la circulation du virus. Pas pour l'instant en tout cas, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui.
Exactement. À l'heure actuelle, il n'y a même pas de corrélation. Donc on ne peut pas établir non plus de causalité, puisque en effet, il y a une corrélation uniquement sur cette période-là, mais elle était déjà vraie avant, alors qu'il n'y avait pas le couvre-feu. Donc aujourd'hui, avec les données dont on dispose, aucun élément ne montre que le couvre-feu renforcé est efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça veut juste dire qu'il faut attendre d'avoir plus de données dans les prochains jours pour pouvoir tirer une conclusion un peu plus franche.
Et toujours au vu des données dont vous disposez, Guillaume Rosier, et notamment de la comparaison avec nos voisins, est-ce que vous pensez qu'un reconfinement est inéluctable ?
Ça va dépendre de l'évolution. Oui, c'est extrêmement compliqué. Ça va dépendre de l'évolution de la situation. Je ne peux pas prédire le comportement qu'on aura tous, chacun individuellement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On ne peut pas prédire non plus d'autres facteurs comme la météo, comme les mesures qui vont être prises, etc. Donc c'est extrêmement compliqué de répondre à la question. Mais cependant, ce dont on est sûr, c'est que le virus circule de façon active sur l'ensemble du territoire. Tous les départements dépassent le seuil d'alerte. Par exemple, en incidence, qui est de 50 cas par semaine pour 100 000 habitants, hein, 50 cas, le seuil d'alerte, et la plupart des départements sont au-dessus de 100, voire 200 ou 300. Donc le virus circule de façon active sur tout le territoire, ça c'est sûr. Il circule de manière un peu plus active sur l'Est, notamment le Nord-Est, le Sud-Est, un tout petit peu moins actif sur l'Ouest, même si il circule quand même de manière très active sur l'Ouest. Et donc ce qui est préoccupant, c'est que si on a une légère augmentation du taux de reproduction du virus, hein, même une très légère augmentation, ça pourrait causer une explosion de l'épidémie et une nouvelle vague. Donc en fait, cette circulation active du virus pourrait dégénérer assez rapidement suivant l'évolution de la situation. Mais aujourd'hui, c'est impossible de savoir si on va devoir être confiné ou pas dans les prochaines semaines.
Alors, il y a aussi une déclinaison de Covid Tracker qui s'appelle Vaccin Tracker. Et là encore, c'est très intéressant parce que non seulement on a le nombre de personnes déjà vaccinées, mais aussi des données sur combien faut-il encore vacciner de personnes avant d'atteindre l'immunité collective. Alors, il faudra combien de temps pour atteindre cette fameuse immunité collective telle qu'on est parti ?
Alors, il faudra beaucoup de temps, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas le prédire parce que ça va dépendre de plein de facteurs, comme par exemple la quantité de vaccins qu'on va recevoir dans les prochains mois et puis du rythme de vaccination dans les prochains mois, parce que rien ne dit que le rythme de vaccination dans les prochains mois va être similaire, par exemple, à celui de cette semaine. On pourrait accélérer la campagne vaccinale dans les prochains mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a vacciné une très faible minorité des Français. Actuellement, on a 0,47% des Français qui ont reçu une dose de vaccin. Il faut au moins 60% d'après les épidémiologistes pour atteindre une immunité collective. Et ça, c'est avec le variant actuel du virus, hein, puisque si on a un autre variant qui est avec un taux de reproduction plus élevé, il faudrait beaucoup plus potentiellement que 60% des Français immunisés pour stopper l'épidémie.
Vous suivez.
Donc aujourd'hui,
aussi,
on est à 0,47%. Il faudra des semaines ou des mois, enfin, il faudra des mois, ça c'est sûr, pour vacciner 60% de la population.
Mais pas avant l'été, en tout cas. Hein.
Oui, c'est en tout cas, au vu du stock de vaccins qu'on va recevoir, ça va être impossible de vacciner 60% de la population avant l'été. Ça paraît très clair. On pourra vacciner au mieux 26 millions, 27 millions de personnes d'ici à cet été si on reçoit toutes les doses de vaccins qui ont été promises par les laboratoires.
Guillaume Rosier, la force de votre site, c'est qu'il est très grand public. Il y a beaucoup de statistiques, mais elles sont très facilement compréhensibles. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. On ne l'a pas dit encore. Est-ce que vous savez si le gouvernement utilise vos données?
Alors, je ne sais pas qui utilise précisément le site, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que de nombreux hôpitaux l'utilisent, notamment par exemple le centre hospitalier de Grasse qui m'a appelé en me disant qu'il l'utilisait très régulièrement en cellule de crise. J'ai eu des retours, le site serait utilisé aussi à un niveau assez élevé, si j'ose dire, dans la hiérarchie française. Il y aurait certains ministères qui utiliseraient le site, mais j'ai pas de retour. À ce sujet, le cabinet d'Olivier Véran m'a félicité. Olivier Véran m'a félicité d'avoir créé ce site qu'il trouve de très grande qualité. Donc ça m'a rendu évidemment très fier.
Oui, ça vous
donc
fait
j'ai
quoi,
pas plus
ça
d'informations sur l'utilisation du site.
Ça vous fait quoi d'être invité à la radio ou sur les plateaux télé comme si vous étiez un grand spécialiste, un grand épidémiologiste?
Bah, écoutez, je suis fier du succès du site. En tout cas, il n'a jamais été prévu, il n'a jamais été anticipé. J'ai jamais eu d'ambition concernant ce site. Ce qui est rigolo dans l'histoire du site, c'est que tout s'est fait finalement de manière assez improvisée, de manière très progressive et très naturelle. À aucun moment, je me suis dit, je vais créer un site qui va faire des millions de vues et qui va me propulser sur les plateaux télé ou radio. Et donc, voilà, je trouve l'histoire assez rigolote finalement. Oui. Et puis, évidemment, je suis très fier de la popularité du site.
Merci beaucoup, Guillaume Rosier. Je rappelle donc Covid Tracker, Vaccin Tracker, deux outils extrêmement clairs pour suivre l'évolution de l'épidémie. Franchement, je suis impressionnée. Hein. Vous avez l'âge de mon fils. Chapeau,
merci
vraiment.
Infiniment.
Chapeau, merci.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamar.
Pfizer annonce des retards dans la livraison de ses vaccins dans toute l'Europe à partir de la semaine prochaine. Retard estimé entre 3 et 4 semaines. Bruxelles rassure, les doses prévues au premier trimestre seront livrées comme prévu. Et pendant ce temps, l'OMS tape du poing sur la table. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé veut des vaccinations dans tous les pays dans les 100 jours. Aux Pays-Bas, le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte contraint à la démission face au scandale. Plusieurs milliers de familles ont été accusées à tort d'avoir fraudé les allocations familiales, selon un rapport parlementaire qui pointe la responsabilité de plusieurs fonctionnaires d'État dans cette affaire. 1900 milliards de dollars, le futur président américain Joe Biden dévoile son plan pour relancer une économie au point mort. Chaque Américain va recevoir un chèque de 1400 dollars. Il envisage également de relever le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Ce plan doit encore recevoir l'aval du Congrès pour entrer en vigueur. Le foot avec Montpellier-Monaco en ouverture de la 20e journée de Ligue 1 ce soir. Mais la suite s'annonce plus compliquée, toujours à cause du coronavirus. Le match Lorient-Dijon prévu dimanche est reporté. 10 joueurs bretons ont été testés positifs. Incertitude aussi autour de la rencontre entre Strasbourg et Saint-Etienne. Plusieurs joueurs stéphanois sont eux aussi positifs au Covid.
L'info revient avec vous à 19h, Christophe Lamar. Anissa Haddadi, on vous retrouve, dites-nous en plus comme promis sur ces 13 départements, Anissa, qui sont en vigilance et dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, alors la vigilance va commencer demain matin à 6h pour l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, Paris et la Petite Couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne et le Val-d'Oise. Alors dans tous ces départements, demain, il neige dès demain matin avec 3 à 10 cm attendus, même dans les centres-villes. Les températures seront très froides, jusqu'à moins 8 degrés notamment dans l'est de la France. Alors neige plus température négative, grand risque de verglas demain, soyez prudents si vous devez prendre la route. En Bretagne, nous sommes à l'arrière de la perturbation, le temps est plus humide, c'est de la pluie. Au bord de la Méditerranée, toujours du vent fort, un mistral et tramontane. Partout ailleurs, un vent, un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Alors je vous le disais, moins 8 à moins 2 degrés dans le nord et dans le grand est, 1 à 8 degrés partout ailleurs demain matin.
Merci beaucoup Anissa. Nouveau point météo complet à 19h.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h32, on ouvre tout de suite le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Bonsoir.
Et le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors cette fois, c'est sans appel. Hein. Le gouvernement français oppose un veto clair et définitif au rapprochement proposé par le Canadien Couche-Tard au géant français Carrefour. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a douché ce matin les derniers espoirs des partisans de ce rapprochement.
Ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
Alors on a un peu de mal à comprendre les grandes voix, pourquoi le gouvernement français se mêle de ce dossier. Yves Tréhard, l'État n'est pas actionnaire de Carrefour, il a son mot à dire quand même.
Écoutez, c'est une affaire qui est exclusivement politique et qui est guidée, dicté par le contexte dans lequel nous vivons, qui est un contexte où le président de la République lui-même, avant l'été, quand il avait fait un grand discours sur justement le fameux monde d'après, qui n'est pas pour tout de suite, eh bien, au cœur de ce monde d'après, il y a justement recouvrir notre souveraineté. Et je pense que, aux yeux du public, dans la tête de Bruno Le Maire et probablement dans la tête aussi d'Emmanuel Macron, voir Carrefour, qui est une enseigne quand même qui est commune, qui est de la vie de tous les jours, que tous les Français connaissent, qui rayonne d'ailleurs dans le monde entier, il faut le dire. Hein. Carrefour, vous avez des Carrefours en Afrique, vous avez des Carrefours en Asie, vous avez des Carrefours en Amérique latine. Eh bien, se dit, tiens, bah, la France, ça continue, on vend à l'encan les bijoux de famille. Sauf que, d'abord, est-ce que l'alimentation est effectivement un sujet et un domaine dans lequel eh bien, il faut exercer notre souveraineté et agiter notre drapeau national, parce que de toute manière, ce n'est pas délocalisable, la grande distribution. Deuxièmement, c'est dans un secteur où la France est leader dans le monde. Vous n'avez pas que Carrefour, vous avez Leclerc, enfin je ne vais pas citer tout le monde.
Et puis un supermarché, ce n'est pas une usine d'armement.
Troisièmement, exactement, ni d'énergie. Troisièmement, les producteurs qui alimentent Leclerc sont des producteurs, certes il y a des produits qui viennent de l'étranger, mais qui sont des producteurs français, pour ce qui est des produits frais, tout ça. En partie, parce qu'il y a aussi la concurrence étrangère. Mais ces producteurs auraient évidemment d'autres débouchés. Et cet opérateur canadien, qui s'appelle Couche-Tard, cet opérateur canadien, en plus, n'est pas du tout sur ce registre-là, puisque c'est un produit, c'est une enseigne qui œuvre surtout dans la distribution de carburant. Et donc, je ne vois pas comment il pourrait venir en concurrence et supprimer des emplois. Ça serait beaucoup plus dangereux pour Carrefour et pour l'avenir de cette entreprise, si c'était une enseigne française comme Casino, par exemple, puisqu'on sait qu'elle a quelques velléités, qui rachetait Carrefour, et à ce moment-là, les salariés pourraient s'inquiéter de se dire, bon, bah, comme dans d'autres, le réseau bancaire, par exemple, bah, là où il y a deux magasins, il n'y en a plus qu'un.
Recouvrir notre souveraineté.
Très, très politique.
Ouais, recouvrir notre souveraineté, disiez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de flirter avec le populisme, Éric Scholl?
C'est ce que j'appelle de la gesticulation politique. Parce que ça soit politique, après tout, pourquoi pas? On voit depuis maintenant plusieurs années la volonté de l'État français d'avoir quand même son mot à dire dans le contrôle des entreprises, en tout cas des opérations d'entreprises étrangères, dès qu'il s'agit d'intérêts stratégiques, de souveraineté. Mais là, en l'occurrence, déjà, il y a une décision qui a été prise avant même qu'il y ait des discussions. Et d'ailleurs, le sujet n'est pas forcément fini, parce que ce qu'on a entendu tout à l'heure, quand on a entendu les propos de Bruno Le Maire datent de ce matin, mais depuis, eh bien, on voit bien qu'au Canada, ça fait de l'agitation, que Justin Trudeau a pris la parole là-dessus pour dire qu'il pourrait y avoir des discussions, que ça pourrait se poursuivre avec Emmanuel Macron. Donc, à mon avis, le sujet n'est pas terminé. D'autant plus qu'on a quand même vu des entreprises françaises être en contact avec d'autres entreprises. Les entreprises françaises rachètent elles aussi des entreprises canadiennes.
Oui, bien sûr.
On a vu avec Bombardier. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, on peut aussi se tirer une balle dans le pied en brandissant tout de suite cette idée de souveraineté. Et donc, c'est ça ce que j'appelle la gesticulation politique. C'est que derrière, il n'y a pas nécessairement les arguments, en particulier ni économiques, ni même stratégiques sur ce coup-là. Et ça peut, derrière, être un peu préjudiciable, y compris, bien sûr, par Carrefour, mais Si cette opération ne se fait pas, qu'est-ce qu'on va avoir ? Peut-être des restructurations.
On va y revenir. Oui, mais je voulais juste, Pascal Perrineau, qu'on redise un mot sur la politique qui se rapproprie l'économie. C'est un problème, ça, quand même.
Et oui, mais vous avez vu que depuis de nombreux mois, c'est tout à fait à l'agenda. L'État et l'État macronien veut se présenter comme protecteur. Après avoir été dans les premières années du quinquennat, il avait une tout à fait autre image. Hein ? Et donc là, maintenant, il se porte avec l'ardeur du néophyte sur cette fonction d'État protecteur, protecteur de notre santé, protecteur socialement et maintenant protection économique. Hein ? En jouant sur, en effet, la réglementation qui prévoit un certain contrôle des investissements en France, mais d'habitude dans des secteurs, en effet, Yves Tréhard le rappelait tout à l'heure, stratégiques. La défense, l'intelligence l'énergie, artificielle, voilà, la cybersécurité,
les transports.
L'énergie, les transports. Mais c'est vrai qu'avait été rajouté récemment le champ de l'agroalimentaire. Donc ça permet, en effet, au ministre de l'économie et des finances de manier cette notion d'atteinte à la souveraineté alimentaire. J'allais dire, il y a un effet de contexte. C'est dans l'air du temps. Hein. Mmh. C'est dans l'air du temps et l'argumentaire économique, comme ça vient d'être dit, est d'une extraordinaire faiblesse tout de même. Hein, parce que Couche-Tard et Carrefour ne sont pas du tout sur des créneaux similaires.
C'est sûr.
Et puis, il y a un autre élément qu'il faut ajouter.
Oui, on poursuit ce débat. C'est promis dans un tout petit instant, Yves Tréhard. On se retrouve sur Europe 1, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h40, on poursuit sur Europe 1 notre débat des grandes voix du vendredi avec toujours à mes côtés Éric Scholl, Yves Tréhard et Pascal Perrineau. Et on parle toujours de ce projet de rapprochement de Carrefour, qui voulait en tout cas se rapprocher du Canadien Couche-Tard. Mais l'État français a dit non, un non ferme et définitif. Il y a un effet de contexte, disait tout à l'heure Pascal Perrineau. Je voudrais savoir si, à votre avis, Emmanuel Macron a pu valider cette décision.
Yves Tréhard. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, il y a de toute manière le souverainisme, quel que soit le secteur, et le mot, je dirais, à la mode actuellement en France et dans la bouche du président de la République, qui, encore une fois, l'a prononcé plusieurs fois à l'occasion de discours solennels qu'il a prononcés en disant qu'on devait recouvrir notre souveraineté, notamment dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine alimentaire aussi, puisque l'alimentation est vraiment... les acteurs, je dirais, de l'alimentation étaient salués à chaque fois par tous les hommes et les femmes politiques, comme quoi ils nous avaient nourris pendant cette crise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à côté du rôle de l'État, vous avez des actionnaires de Carrefour qui ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde que l'État. J'en veux pour preuve, un des actionnaires les plus importants qui est le groupe, enfin Bernard Arnault lui-même, qui a 11% je crois du capital de Carrefour, et qui lui, évidemment, a tout intérêt à ce que ça se vende à la hausse, puisque l'action de Carrefour, avec l'intention de l'opérateur canadien, a fait un bond
flambé, oui.
en quelques jours. Hein. Ouais. On est passé, je crois, d'une évaluation de 12 à 16 milliards. Donc, c'est pas rien.
Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Éric Scholl, on a le droit d'investir et de racheter à l'étranger. LVMH qui a absorbé Tiffany, Alstom, on en parlait tout à l'heure, une partie de Bombardier. Mais quand c'est dans le sens inverse, l'État refuse.
Non, alors c'est pas tout à fait vrai. Parce que heureusement, la France reste une grande terre d'attractivité et de la part pour les investisseurs étrangers.
Ça sera moins le cas si ça continue.
Et effectivement, ce qui est en jeu là, c'est cette attractivité française. Or, on le sait, les entreprises françaises, j'ai regardé les chiffres, depuis 10 ans, en moyenne, c'est entre 45 et 50 milliards d'euros qui sont investis chaque année à l'étranger, en investissement à l'étranger. Donc, si vous voulez, c'est en ce sens-là qu'il faut faire attention à ne pas se couper les ailes en tout d'un coup, en fermant le territoire français. On a fait, si on regarde les dernières années, il y a eu des erreurs qui ont été faites, notamment dans des intérêts stratégiques. Mais il ne faut pas confondre l'intérêt stratégique et des effets politiques. Et là, on est, je pense, dans un effet politique. Les intérêts stratégiques, ça concerne la France, ça concerne d'ailleurs l'Europe. Tous les pays en Europe se sont dotés depuis maintenant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, et la France plus récemment, d'outils pour essayer de se protéger. Ce n'est pas tant d'ailleurs le Canada qui était visé, mais beaucoup plus sans doute des États comme la Chine ou la Russie.
Mais justement, dans cette affaire, on a un peu l'impression qu'on traite le Canada comme si c'était la Chine. C'est presque insultant.
Je pense que ça concerne moins le Canada, finalement, que cette volonté politique de dire, voyez, on va garder Carrefour en France. Il n'est pas... un point de vue politique, ça quand même, c'est pas une bonne idée de voir un fleuron français comme ça se dire tiens, il part à l'étranger. Donc je pense que c'est toute la démarche qui est entreprise aujourd'hui par Bruno Le Maire et on l'a vu en deux jours, avant même d'avoir reçu les gens de ce groupe québécois, tout de suite affirmer d'abord que ça serait sans doute a priori non, et aujourd'hui ça serait un non courtois. On se demande d'ailleurs où est la notion de courtoisie à partir du moment où il n'a pas reçu les dirigeants canadiens.
Ouais, surtout que cette affaire, elle n'entraînerait pas de synergie, donc de recherche de baisse de coûts, de restructuration, Pascal Perrineau.
Bien sûr. Là, je crois que c'est la ministre du Travail, en effet, qui dit qu'elle craint pour l'emploi. Mais on ne voit pas très bien, parce que je regardais attentivement pays par pays, ces deux groupes, Couche-Tard et Carrefour, ne sont pas concurrents. Le seul pays où ils se situent un peu sur le même créneau, apparemment, c'est la Pologne. Mais à part ça, voilà, ce sont deux métiers profondément différents. Mais on le voit bien... on est en campagne électorale, quoi. Et on commence à voir les thèmes qui vont être mis en avant par le candidat Macron le jour venu.
Oui, mais on est dans une situation économique extraordinaire, difficile. Est-ce que c'est le moment d'énerver les investisseurs?
Non, ce n'est pas le moment d'énerver les investisseurs parce qu'on en aura besoin pour la reprise. Hein. Mais on est dans les limites du « en même temps » macronien.
Et vous pensez que le gouvernement peut revoir sa copie?
Et néanmoins, vous voyez que les oppositions ne disent pas un mot.
Pas un mot.
Personne n'ira s'aventurer.
Alors si, elle pointe quand même un problème de cohérence avec le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada.
J'aimerais bien entendre un responsable politique de premier plan qui voudrait s'engager dans la présidentielle dire « moi je suis tout à fait pour la vente de Carrefour ». Alors là, je crains fort que ça soit un exercice délicat pour lui. Parce que évidemment, les Français, pour eux, Carrefour, c'est le magasin du coin de la rue, même si ce sont des grandes surfaces qui ne sont justement pas toujours au coin de la rue. Mais ça serait plutôt impopulaire. C'est du populisme.
C'est le premier employeur privé en France. Bien donc sûr. C'est quand même un rôle très important.
100 000 employés.
On verra ce que ça donne. On verra si le gouvernement campe sur ses positions. On va poursuivre notre débat des grandes voix du vendredi. Dans un instant, cette fois, on va parler de vaccination. Tiens donc, ça faisait longtemps. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h49, on poursuit notre débat des grandes voix du vendredi avec toujours à mes côtés Éric Scholl de l'Express, Yves Tréhard du Figaro et Pascal Perrineau, le politologue. Alors on a beaucoup dit qu'au pays de Pasteur, le vaccin n'était plus en odeur de sainteté. On en a parlé souvent ici. Eh bien, il semble que les choses soient en train d'évoluer puisqu'il y a ce sondage IFOP Fiducial qui nous dit que 54% des Français seraient prêts désormais à se faire vacciner. C'est 15% de plus qu'il y a un mois. C'est quoi? C'est l'effet d'entraînement, Pascal Perrineau?
En effet, il y a une très forte évolution parce qu'encore il y a quelques semaines, il y avait une enquête internationale sur plus de 30 pays de l'Institut BVA et la France était une des lanternes rouges sur les 30 pays. On était le pays le plus vaccino-sceptique, hein, avec la Croatie, je crois, et le Liban. Hein. Donc ça a changé. Alors ça a changé, pourquoi? D'abord parce que, je crois, il y a une lente prise de conscience dans l'opinion publique que le seul moyen à terme pour sortir véritablement de la crise que nous traversons, c'est la vaccination et la hausse de l'immunité collective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout de même, les gens regardent la télévision, écoutent la radio et ils s'aperçoivent que, voilà, Joe Biden se fait vacciner, la reine d'Angleterre et le prince Philippe, Netanyahou,
le pape François,
tous les pays du monde, voilà, le pape François. Donc, quelque part, les vaccino-sceptiques, pas les 20% qui sont contre toute forme de vaccin, etc., mais ceux qui hésitaient, eh bien, peu à peu, deviennent des gens qui envisagent de se faire vacciner. Et puis, il y a l'épreuve du réel. Il y a eu plus de 150 000 vaccinations en France. Il y a eu une allergie qui n'a pas été d'ailleurs considérée comme un cas grave. Donc, les gens se disent, bon, ben voilà, le risque est tout de même un risque minimal. Et puis, je crois que, au fond, le camp des vaccino-sceptiques ou des vaccino-hostiles ne trouve plus personne. Mélenchon avait essayé un bref moment de semer le trouble, mais là, il n'y a plus personne. Il n'y a pas un leader de premier plan sur le créneau pour exploiter ce vaccino-pessimisme. Donc, pour toutes ces raisons,
et puis,
on est en train de changer d'air.
Du variant anglais. Eric Scholl, le départ lent et critiqué de la vaccination, de la campagne vaccination, finalement, ça a donné envie aux Français de se faire vacciner. C'est
sans
assez
doute,
français,
c'est,
ça. On
c'est
dit
un
non,
un
puis
paradoxe,
après, on réfléchit, on dit oui.
Effectivement, il y a cette histoire d'offre et de demande. On a vu que l'offre de vaccins était réduite et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on en a impérativement besoin. Et du coup,
on n'est pas sûr d'en avoir, donc on en veut.
Il faut y aller. Effectivement, toutes les raisons qu'a rappelé Pascal Perrino. Il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui qui montre quand même que la mortalité en 2020 a augmenté de 9%. Ça, c'est quelque chose de réel. On voit à quel point ce virus fait du mal, nous fait du mal. Et à côté, on sait maintenant qu'on a des vaccins qui sont efficaces, qui ont été testés à la fois en clinique, on le sait, à 94 ou 95% efficace. Et on voit maintenant, à travers les 300 000 ou tests, vaccins qui ont déjà été administrés en France, on voit qu'il y a eu peu ou quasiment pas d'effets indésirables graves. Donc, très logiquement et de façon pragmatique, et tant mieux, les Français changent leur état d'esprit. Et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter.
Oui. Yves Tréhard, il y a aussi cet autre sondage, Elab, qui nous dit que 78% des Français se déclarent inquiets de l'épidémie. Ça a augmenté de 5% en une semaine. Il y a aussi cette inquiétude, effectivement, qui monte et qui fait que les gens ont envie de se faire vacciner.
Oui, alors moi, je pense que ce que Eric vient de décrire, c'est vrai. Il y a eu la peur. En fait, les ratés du gouvernement ont eu pour effet bénéfique, peut-être, d'inciter les gens. Et les gens se sont dit, faut absolument qu'on se fasse vacciner. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je crois que quand même, cette défiance vis-à-vis des autorités publiques depuis le début de cette crise, elle continue à se creuser. Et j'en veux pour preuve qu'il va y avoir lundi prochain, on le dit trop souvent, mais va être un jour très important.
Pourquoi ?
Parce que si le cafouillage qu'on constate dès aujourd'hui pour les personnes de plus de 75 ans ou pour les personnes qui sont autorisées à aller se faire vacciner dès lundi...
Oui, la campagne de vaccination des plus de 75
voilà,
ans.
Voilà, ils ne peuvent pas s'inscrire aujourd'hui. Enfin, il y a
ça commence, mais ça a été compliqué.
Dans les plateformes d'inscription.
Ça va mieux, un peu mieux.
Il faut impérativement que ça marche, parce que le vaccin, c'est, je dirais, capital. C'est ce qui va nous sortir de la crise. C'est pas moi qui parle, c'est tous les médecins. Et moi, je me réfugie derrière les scientifiques là-dessus. Et c'est vrai, il n'y a pas de remède. On ne va pas vivre toute notre vie enfermés chez nous avec un masque et à ne pas pouvoir embrasser ses enfants ou dire bonjour à ses grands-parents. Donc, il faut impérativement que ce vaccin, je dirais que la stratégie
cette campagne de vaccination fonctionne
soit
correctement,
au point,
sans bug. Ouais.
Et qu'elle ne soit pas improvisée comme ça donne le sentiment de l'être. Moi, je pense que le gouvernement a quand même suffisamment anticipé les choses, mais il y a des signaux qui sont inquiétants. Quand on vous dit, un des laboratoires Pfizer qui dit qu'ils ne pourront pas livrer tout le monde à temps et qu'il risque d'y avoir peut-être un petit début de pénurie dans un mois.
Ça peut inquiéter les gens, effectivement.
Et ça inquiète les gens, nécessairement.
Baisse temporaire à compter de la semaine prochaine du nombre de livraisons de vaccins vers l'Europe. Et c'est ce que dit Pfizer aujourd'hui.
Rien que ça, vous voyez, ça inquiète les gens, je pense. Et les gens, maintenant, sont, à mon avis, tout à fait déterminés à aller se faire vacciner.
Est-ce qu'il y a aussi, Pascal Perrino, un ras-le-bol des restrictions, une envie de sortir de cette crise dont les Français ont bien
si
compris qu'on ne s'en sortira qu'avec la vaccination.
Mois, ça va faire bientôt un an qu'on est dans cette situation, qui est une situation de privation des libertés, d'un confinement avec ses conséquences psychologiques aussi, économiques certes, mais psychologiques graves. Beaucoup de gens vont mal. Tous les psychiatres vous le disent aujourd'hui, les cabinets sont pleins à craquer, les consultations sont pleines à craquer. Moi, je le vois en tant qu'enseignant. Si vous voulez, les jeunes étudiants qui, depuis des mois et des mois, subissent des cours par Zoom, ils vont mal. Les jeunes vont mal. Leur entrée, si vous voulez, à l'université et l'entrée qu'ils prévoient dans la vie active se présentent tout de même sous de tristes augures. Donc,
le gouvernement va même leur offrir
des
chèques pour aller chez le psychologue, voilà. aux jeunes étudiants.
Bien,
oui.
sûr, bien sûr. Et donc, ils veulent voir la fin du tunnel. Et ils savent très bien que la seule lanterne dans ce tunnel, c'est en effet la vaccination. Et ça explique largement les 15 points dont vous parlez tout à l'heure de vaccino-sceptiques qui tombent enfin dans le camp des vaccinaux volontaires.
Merci les grands doigts de m'avoir accompagné ce soir. Eric Scholl, Yves Tréhard, Pascal Perrino. Dans un instant, c'est votre grand journal de 19h sur Europe 1.